Alors j'aime beaucoup la musique, mais ce serait peut-être mieux de la couper. Ah. Alors, on va relire le passage ensemble, n'est-ce pas? C'est notre passage de base pour la matinée. On va le lire ensemble de nouveau. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, est-ce que vous lisez? Parce que j'entends pas. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Vous allez voir le principe de l'entonnoir dans ce passage. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Si vous voulez gagner, il faut courir, mais ça ne suffit pas. Il faut courir de la manière. Il y a une manière de courir qui gagne rien du tout. Et à la fin, t'es fatigué, mais t'as rien pour montrer pour tous tes efforts. Mais si tu veux gagner, il faut courir dans la manière. Alors, dans le passage que nous avons lu, il y a tout pour réussir dans l'évangélisation. Il y a l'engagement, la motivation, la connaissance, la mobilisation, un objectif clair. Je vais aller un peu vite, mais engagement, motivation, connaissance, mobilisation, objectif. Et ce passage va nous être utile pour développer une stratégie d'évangélisation pour l'Église locale. Et c'est mon thème dans cette deuxième partie, de développer une stratégie d'évangélisation pour l'église locale. Alors, je comprends bien que vous n'êtes pas forcément des pasteurs d'église, et donc ce ne sera pas à vous d'imposer quoi que ce soit, mais en même temps, j'ose croire que dans les années à venir, certains d'entre vous, vous serez pasteurs de vos églises. Ouh! Ouh, là, il y a une bonne réaction, dis donc. Et c'est pour ça que maintenant, il est important que vous réfléchissiez que l'évangélisation ne fasse pas juste un coup par coup, mais que fasse partie d'une stratégie bien réfléchie, bien développée. Alors, premièrement, j'aimerais vous poser trois questions. Quelle importance Dieu attache-t-il au salut d'une âme? Peu important? Moyennement important, très important. C'est pas un choix, capital. Peu important, moyennement important, très important. Ok, on est d'accord. Deuxième question, quelle importance qu'une église grandisse avec des personnes nouvellement converties? Peu important, moyennement important, très important. Je vais demander à la sécurité de le mettre dehors, celui-là. Peu important, moyennement important, très important. Vous êtes sûr, hein, parce que, attention à ce que vous avez dit, hein. Ça veut dire que vous pensez qu'il est très important qu'une église grandisse avec des personnes nouvellement converties. Et oui, parce que si vous, votre église ne grandit pas avec des personnes nouvellement converties, eh bien, vous passez à côté de quelque chose apparemment très important. Soyons clairs. Et beaucoup d'églises évangéliques se contentent de vivre leur vie sans cette réalité et ne voient même pas l'importance de ceux qui sont en train de passer à côté. Troisième question. Quelle importance dans une église, quelle importance quand une église ne grandit pas avec de nouvelles conversions, que des réponses soient trouvées? Peu important? Moyennement important? Très important. Très important. Ça veut dire que si votre église ne grandit pas avec des âmes nouvelles qui se convertissent, il est très important de trouver des solutions et de ne pas se résigner à cela. Dans des pays anglo-saxons, une église peut se maintenir et peut même grandir sans gagner des âmes à Christ. Ça s'appelle les transfugiés. On grandit parce que des gens viennent d'autres églises chez nous, parce qu'on arrive à faire quelque chose qui les attire d'une autre église. Et alors, il y a des églises qui vont pas le dire ouvertement comme ça, mais qui ont une logique. Comment est-ce qu'on peut faire une vie d'église attractive pour attirer des gens chrétiens chez nous? Alors, ils vont pas le dire comme ça, bien sûr. Mais la réalité, c'est que leur programmation est conçue pour être attractif à des chrétiens qui ne viennent pas à leur église. En France, on n'a pas ce luxe. Si on gagne pas des gens à Christ, on meurt. Oui, oui, vous mourrez. Parce que de toute façon, une église invente tous les jours une nouvelle façon de la quitter. Quitter une église, c'est devenu une forme d'art. Alors, il y a différents moyens de quitter une église par son décès. Ça, on leur en veut pas, hein. On peut pas l'interdire, hein. Quand quelqu'un est mort, eh bien, on accepte qu'il ne fait plus partie de l'église. Mutation professionnelle. Ça aussi, on n'a pas grand-chose à dire, quoique parfois, je trouve que les gens acceptent une mutation trop facilement. Ils pensent qu'ils vont retrouver une bonne église comme ça ailleurs, et ben après, des années plus tard, on apprend que non, ils n'ont jamais retrouvé ce qu'ils avaient avec nous. Alors, c'est pas parce que le patron, il dit, ben bouge, que Dieu est en train de dire bouge. Mais dans les temps de crise, le patron prend presque la place de Dieu. Ils partent à la retraite, ils veulent le soleil. Bon, leur en veut pas. Ils sont en désaccord avec le pasteur. Nous, on a perdu une famille au mois de janvier. Bon, lui, je le regrette. Elle, moi. Et madame est venue me voir en disant, parce qu'elle avait une fille qui était un peu sa fierté. Et puis elle m'a dit, en mois de novembre, elle m'a dit, Vincent, est-ce que ma fille peut faire une danse pendant un culte? On veut encourager les enfants. Alors moi j'ai dit, pourquoi pas, tu vois, juste avant une prédication, avoir une danse. Allez, pourquoi pas? Alors j'ai dit, ben, en principe, oui, mais ça va durer combien de temps la danse? Elle m'a dit 12 minutes. J'écoute. 12 minutes, ça fait un peu long, hein. Si c'était un concert, un spectacle d'enfants, à la limite, on peut tenir 12 minutes, mais j'ai dit, les gens viennent pour un culte, et 12 minutes à regarder un enfant danser, au niveau inspiration, c'est peut-être pas ça. Hein. Alors j'ai dit, tu sais, ce que je te demande, c'est de réduire ce qu'elle va faire à 5 minutes. Elle m'a répondu, c'est 12 minutes ou rien. Bon, bah, c'était rien. Parce que je n'ai pas abondé dans son sens, elle nous a boudés pendant 2 mois. Et parce qu'elle portait les pantalons, ils se sont barrés. Les gens quittent des églises parce qu'ils sont en désaccord avec le pasteur. Malheureusement, les gens quittent des églises parce qu'ils rétrogradent aussi. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Et il y a des pasteurs qui sont tellement troublés par le départ de gens de leur église que leur perspective à eux, c'est de tout faire pour fermer la porte arrière. Il y en a même qui enseignent sur ça. Comment fermer la porte arrière? Alors la tactique d'une certaine domination que je connais, c'est de marteler Hébreux 10, 25, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de certains. Et ils culpabilisent, surtout ne va pas ailleurs pour mettre ton nez parce que là, tu abandonnes ton assemblée, puis tu es pas fidèle, tu es pas loyal, et puis oh là là, oh là là. Moi, je leur dis, écoutez, vous fermez la porte arrière, ils vont sauter par la fenêtre. S'ils veulent partir, ils vont partir. Non. Tu sais, les jeunes pasteurs qu'on a formés, qui étaient confrontés à cette réalité pénible de voir des gens quitter une église, eh bien, moi, je leur ai dit, écoutez, ce qu'il faut bien mettre dans ta tête, c'est que la croissance d'une église, c'est d'en gagner plus qu'on en perd. C'est d'en gagner plus qu'on en perd. Alors, l'importance, c'est pas de verrouiller, de clouer la porte d'arrière. L'important, c'est d'ouvrir la porte d'entrée. Et ça, les églises évangéliques n'ont pas été très bons dans ce domaine-là. Donc, une église qui gagne pas des âmes à Christ, eh bien, elle est mourante, obligatoirement. Ça va peut-être mettre 30 ans pour finalement mourir, mais elle est déjà mourante. Mais elle meurt d'une autre façon. Parce qu'une église qui ne gagne pas des âmes à Christ, eh bien, ne voit pas arriver le sang nouveau qu'une église a besoin. Vous savez que dans le corps humain, le sang se renouvelle tous les 30 jours. Il a besoin de se renouveler. Un corps a besoin de sang nouveau. Une église a besoin de gens nouveaux qui arrivent avec leur joie, avec leur enthousiasme, avec leur reconnaissance, avec leur talent, avec leurs finances, avec leur implication, avec leurs enfants, avec leurs jeunes. Et quand on a cet arrivage de gens qui se convertissent au milieu de nous, eh bien ça a un effet positif dans toute la vie de l'église. C'est la joie de voir Dieu à l'œuvre dans son église. Le pasteur est encouragé parce que eh bien, c'est Dieu qui bénit son ministère. Les membres de l'église sont fiers parce que eh bien, leur église est en train de grandir. Ceux qui prient l'intercession, c'est grâce à eux. Regardez tout ce que Dieu fait. Nous prions. Et pour ceux qui aiment conseiller, faire tout le travail de suivi, ils se frottent les mains, ils ont dit super, on a des nouveaux à suivre. Il y a des baptêmes et on aime faire des baptêmes. Les nouveaux apportent leurs finances et le trésorier, lui, il est content. L'église grandit numériquement. Et l'arrivée de 100 nouveaux est tellement importante pour une église en bonne santé. Alors, le problème auquel nous sommes confrontés, c'est que peu de gens se convertissent dans nos églises. C'est une vérité? Oui ou non? C'est une vérité. Et pourquoi donc? Eh bien, parce qu'il y a peu d'inconvertis dans nos réunions pour répondre aux appels. Vrai ou faux? Peu d'inconvertis finalement. Peu de non-chrétiens dans nos réunions. Alors, pourquoi y a-t-il peu de non-chrétiens qui fréquentent nos réunions? Et la réponse est simple. Les nouveaux viennent seulement s'ils sont invités et accompagnés. On arrive progressivement au vrai problème. Donc le problème des conversions, elle est là. Pas d'invitation et d'accompagnement qui fait que pas d'inconvertis dans nos réunions, qui fait qu'il n'y ait pas de conversion dans nos églises, qui fait que l'église ne grandit pas avec des conversions. Alors, quelle est la solution? Parce qu'on est des gens de solution ici. Pas simplement des gens qui constatent et qui analysent ce qui ne va pas. Eh bien, le problème est directement lié à la question de la culture de l'église. Est-ce que vous avez compris que chaque église à sa culture. Alors la culture n'est pas du tout la confession de foi. Parce que si vous rassemblez les confessions de foi de toutes les églises évangéliques, elles sont plus ou moins les mêmes. Il y aurait quelques petites nuances, mais pas grand-chose. Donc c'est pas une question de confession de foi. La culture d'une église, c'est l'ambiance. C'est la vision, c'est la façon de s'exprimer, ça part de comment on se salue, comment nous conduisons une réunion, les chants qu'on chante et les chants qu'on ne chante pas, la publicité, la com, comme on dit, la décoration de la salle. Ça reflète une culture. La documentation, les documents qu'on distribue à nos membres et que les membres distribuent autour d'eux. Le programme. Montrez-moi le programme d'une église et je pourrais déjà vous dire sa culture. La structure, comment elle se structure. Les priorités budgétaires, sur quoi dépense-t-elle son argent? C'est le reflet de sa culture. Alors, la culture d'une église est façonnée par deux réalités. La première, c'est l'histoire de l'église et son identité. Une église peut être une église charismatique. Elle peut être une église non charismatique. Elle peut être une église prophétique. Elle peut être une église plus traditionnelle. Et son histoire et son identité vont largement produire sa culture. Mais la deuxième chose qui va influencer la culture d'une église, c'est la vision du pasteur principal. C'est lui qui a la possibilité de toucher à la culture d'une église. J'aimerais identifier quatre différentes cultures d'église. Mais il y en a plusieurs d'autres que je vais peut-être simplement mentionner en passant. Mais pour que vous puissiez comprendre l'importance de cette notion de culture, vous allez peut-être comprendre davantage la culture de votre propre église après ce que je vais dire. J'aimerais vous rappeler que si vous n'êtes pas pasteur principal, ce n'est pas à vous de changer la culture de votre église. Soyons clairs par rapport à ça. On ne veut pas vous renvoyer chez vous ce soir ou demain pour que vous ayez voir votre pasteur et pour lui dire « on fait tout faux ici ». Si vous faites ça, nous, on perd des amis tout de suite. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que vous vous prépariez pour ce qui va venir. Lorsque vous avez, vous, le bébé dans les bras, lorsque vous avez le volant entre vos mains, pour que les choix que vous faites, eh bien, ce sera des choix bien réfléchis. Si vous avez la possibilité d'apporter une évolution au niveau de la culture dans tel ou tel domaine qui vous appartient, faites-le toujours en harmonie avec le pasteur principal et la vision de l'Église. Ne faites jamais une Église dans une Église. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Alors, première culture que j'aimerais vous présenter, culture d'Église, c'est la culture d'action sociale. La communauté trouve sa raison d'être dans une stratégie humanitaire. Dans une telle culture, il y a énormément de ressources humaines et financières qui sont consacrées à aider des personnes défavorisées, surtout en dehors de l'Église. Et normalement, ça ne produit pas des gens dans l'Église. C'est un constat qu'on fait. Mais que l'Église se mobilise avec cette vision d'aider les pauvres, d'aider les défavorisés. Il y a beaucoup de versets dans la Bible qui justifient cette approche, aucun doute. Mais on peut le faire même sans croire en Dieu, ça. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour moi, j'aurais du mal avec une culture comme ça. Parce que essentiellement, ma vie d'église doit obligatoirement tourner autour de l'évangile. Si c'est une action de l'église en vue de pouvoir évangéliser et de créer un lien avec l'église, ça se comprend, c'est valable. Mais après, le problème, comme je connais dans certaines églises, le monstre prend des proportions tellement qu'il y a une conjoncture qui favorise ça. Et très vite, l'Église est dépassée et maintenant, ce n'est plus du tout une action d'évangélisation réelle, c'est une action purement humanitaire. Dans cette culture-là, le pasteur est perçu comme un directeur. Il est perçu comme un chef d'entreprise, un entrepreneur. C'est lui qui doit gérer le personnel, les finances, les différents aspects pour que la machine tourne. Deuxième culture d'une église, deuxième possibilité de culture d'une église, c'est la culture de l'accompagnement de problèmes personnels. La culture de l'accompagnement de problèmes personnels. Vous m'avez peut-être déjà entendu parler sur l'église hôpital. Qui existe pour des gens malades. C'est l'Église qui voit sa raison d'être en fonction des problèmes des chrétiens qui la fréquentent. Vous l'entendez dans les prédications qui reviennent toujours sur les problèmes de la vie, son mal-être, les soucis, la crainte. Les relations, le pardon, la réconciliation, tous les domaines où l'être humain est pas bien. Cela attire des chrétiens qui sont pas bien, des gens qui sont en bonne santé, eh bien très vite ne trouvent plus leur compte et ont plutôt peur de choper le virus de celui qui est malade. Les prophéties, les prières, les chants choisis reflètent cette même mentalité. C'est toujours Jésus qui m'a relevé. Toi, au fond de la salle, tu es dépressif, tu penses que personne t'aime. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui que je t'aime avec un amour éternel. Oh, merci Seigneur, j'avais besoin d'entendre ça aujourd'hui. Je ne méprise pas la prophétie, mais elle manque souvent une profondeur d'inspiration, je trouve. On entend souvent les choses qu'on veut entendre. Excusez-moi. Dans cette ambiance-là, le pasteur se retrouve en rôle d'assistant social. Il fait beaucoup de visites et passe beaucoup de temps dans son bureau à conseiller les gens et prier avec eux. Et les appels après des prédications font partie intégrante d'un culte. Quand je dis ça, je ne voudrais pas que vous pensiez que je n'ai pas le souci des problèmes des gens qui viennent dans notre église, parce que je l'ai. Simplement que je ne suis pas prêt à faire de ça la raison d'être de notre église. Parce que quand vous mettez quelque chose sous la loupe, qu'est-ce qui se passe? Eh oui. Et quelque chose qui devrait être ça, quand vous le mettez au centre, ça devient ça. Et quand ça devient ça, eh bien ça devient ça. Si vous me comprenez. Troisième culture possible, et on en trouve beaucoup d'églises comme ça, c'est la culture prophétique. Et là aussi, je dois préciser que je ne suis pas contre la prophétie. Mais dans la culture prophétique, l'Église est un lieu de révélation. Les chants parlent beaucoup de la gloire et du réveil qui doit venir et qui n'arrive jamais. La prière s'oriente vers un combat spirituel avec des forces des ténèbres. Les paroles prophétiques sont nombreuses. Les livres des prophètes comme Rick Joyner se vendent bien. Et le pasteur est perçu comme l'homme de Dieu qui descend de sa montagne pour parler au peuple de la part de Dieu. Il y a d'autres cultures d'église possibles. Avant d'aborder celui dont surtout je veux vous en parler, La culture de la louange. Tout est louange. Une heure de louange, sinon c'est pas un culte. Beaucoup de dépenses sur la technique. Sur l'estrade, beaucoup d'attention sur l'estrade. Les meneurs sont les célébrités de l'église, les stars, parce que c'est eux qui conduisent la louange, culture de louange. Notre église peut avoir la culture de la guérison divine. Le message revient chaque fois sur ça. On prie tout le temps pour les malades. Quelqu'un qui est malade et qui ne guérit pas, eh bien, pose vraiment un problème à l'église. Parce que c'est une église de foi. C'est une église de puissance du Saint-Esprit. C'est une église où l'imposition des mains. C'est une église où on ne supporte pas que quelqu'un ne soit pas guéri. Et alors les grands malades de l'église, comme toutes les églises connaissent, ben eux, ils sont pas bien. Alors, il y a aussi l'église, la culture de l'enseignement systématique de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas faire une réunion sans qu'il y ait un enseignement structuré. Pourquoi ? Ben c'est l'enseignement, l'enseignement, l'enseignement. Moi, j'ai grandi dans une église qui était comme ça. C'était l'église de la culture de l'enseignement. Il y avait enseignement et une réunion de prière, eh bien, c'était 10 minutes de prière et 45 minutes d'enseignement. Et puis l'idée, c'était que parce qu'on enseigne bien les chrétiens, ils vont devenir matures. Et pourtant, il y avait beaucoup de gens immatures dans cette église. Et enfin, il y a la culture du salut et de la conversion des gens perdus. Quand j'étais jeune pasteur, j'ai fait des réunions dans une fac en Australie et je recevais des chrétiens des différentes églises de la ville de Brisbane. Et c'était très intéressant de voir la différence entre les chrétiens en fonction de quelle église et quelle culture auxquelles ils étaient exposés. Alors il y avait la culture de l'enseignement, il y avait la culture de la louange et la prière, il y avait la culture de la communion fraternelle, il y avait la culture des besoins personnels, tout était présent. Je peux vous dire de loin, les meilleurs chrétiens, ceux qui étaient plus fervents, ceux qui étaient plus à se consacrer, ceux qui ne flanchaient pas devant un sacrifice. Les meilleurs chrétiens que j'avais devant moi, c'était ceux qui venaient de l'église où il y avait une culture du salut des âmes. J'aimerais vous le dire tout de suite. J'ai fait mon choix quand j'ai vu la différence de chrétiens que cela produisait. Eux, ils n'avaient pas peur. Ils n'avaient pas peur de prier. Ils n'avaient pas peur d'aller donner une invitation à quelqu'un. Ils n'avaient pas peur de venir en avance pour pouvoir préparer la salle. Ils n'avaient pas peur d'être un chrétien radical. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'était le salut des âmes. Et lorsqu'une église reflète ça, elle reflète le ciel. Pourquoi ? Parce que le ciel vibre avec le salut des âmes sur la terre. Si le ciel est un lieu de joie, eh bien c'est parce que le ciel s'allume lorsque une personne est sauvée sur la terre. Le problème, c'est que le ciel se réjouit beaucoup plus de cet événement merveilleux que les églises aujourd'hui. Et quand quelqu'un se convertit, c'est bien. J'étais dans une église, il y a eu des gens qui se sont convertis, et j'ai parlé avec le pasteur, et j'ai dit, c'est réjouissant de voir les gens qui se sont convertis, et il m'a dit, c'est bien. J'avais envie de lui mettre une claque. J'ai dit, c'est pas bien, c'est fabuleux ce qu'on a vu là. Ah, c'est bien.
Oh là là.
De bâtir une culture du salut des âmes. J'étais dans une pastorale, il y a 2 semaines, pastorale évangélique. On m'a demandé de prendre la parole, c'est une erreur de faire ça. Je vous le dis tout de suite, ne m'invitez pas. Et je leur ai parlé, et il y en a quelques-uns qui n'étaient pas contents à la fin. Je leur ai parlé d'avoir une culture d'église de Marthe. Beaucoup d'activités, beaucoup de services, mais aussi reproches, agitations. Ou bien on peut avoir une culture d'église de Marie, le bronzage spirituel. Et je dis bien, ce qui est étonnant dans cette histoire de Marthe et Marie, c'est que Jésus était dans leur maison, il y avait de l'adoration dans cette maison, il y avait du service dans cette maison et il n'y avait personne qui se convertissait dans cette maison. Rien ne se passait. Pourtant, il y avait Jésus, il y avait l'adoration, il y avait le service, il n'y avait rien qui se passait. Mais dans Jean 12, il y a quelque chose qui se passe. Parce que dans Jean 11, il y a un bouleversement dans la maison. C'est le frère qui meurt, Lazare. Et Jean 11, il ressuscite. Jean 12, la maison maintenant n'est plus la même. On la retrouve. Marthe, toujours en train de servir. Marie, toujours en train de recevoir et d'adorer. Et à table avec Jésus, il y a Lazare, le ressuscité. Et quand vous regardez un peu plus bas, vous découvrez que maintenant, les gens venaient dans cette maison pour croire en Jésus, mais surtout pour voir l'homme que Jésus a ressuscité. Et la maison a découvert une nouvelle culture. Et la culture, c'était celle de l'homme ressuscité par Jésus. Et il y a un pasteur qui s'est levé, qui a dit, j'ai une question. Il s'est dit, mais il m'a dit, comment peut-on nous changer la culture de nos églises pour qu'elle devienne une culture de Lazare? Nous sommes que des hommes ressuscités par Jésus. Nous avons tous été morts et nous sommes maintenant revenus à la vie. Et que les gens qui viennent, eh bien, avant il y avait Jésus dans la maison, mais ils ne venaient pas pour voir Jésus. Mais maintenant ils viennent dans cette même maison, mais ils ne viennent pas dans un premier temps pour voir Jésus. Ils viennent pour nous voir, nous les ressuscités. Ah ben, je croyais que ça, vous auriez été content. Mais c'est une question de culture. Pasteur, il dit, comment on va faire? J'ai dit, mais dans vos églises, vous avez des témoignages fabuleux d'hommes et de femmes qui ont rencontré Jésus. Mais on les entend jamais. Ils sont comme la toile de fond. C'est comme si on n'en parle plus. C'est comme si maintenant on est passé à autre chose. Moi, j'ai dit, tu commences à revenir sur les histoires des uns et des autres de conversion. Comment ils ont rencontré Jésus, ce que Jésus a fait, les personnes qu'il a utilisées, les circonstances qui ont eu lieu, les combats qu'ils ont connus intérieurement. Et là, on commence à remettre le salut en avant dans nos églises. Et par la force des choses, ça va aider à transformer une culture pour qu'elle devienne une culture du salut des âmes. Alors, une culture du salut des âmes et la conversion des gens perdus se bâtira sur trois piliers. J'aurais tellement voulu que vous soyez tous des pasteurs principaux. Ce n'est pas encore le cas, mais j'ose croire que ce sera le cas. Antoine, qu'est-ce que tu en penses? Hein, il y en a combien ici de pasteurs d'église ici, en potentiel? Il y en a un paquet, hein? Il y en a un paquet. Moi, j'étais pasteur principal de ma propre église à 23 ans. Alors, ne dis pas que je suis trop jeune. Au contraire, moi, je dirais plutôt attention parce que tu pourrais devenir trop vieux. Il faut bouger. Les trois piliers sur lesquels une culture de salut des âmes se construit. Le premier, et puis là, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est l'engagement personnel du pasteur principal. Si le pasteur principal n'est pas entièrement engagé dans la vision du salut de l'être humain, le message de l'évangile restera secondaire dans la vie de l'Église. Hélas. Paul était profondément motivé par ça. Il n'y avait que ça qui comptait finalement pour Paul. Nous avons lu dans le passage de 1 Corinthiens 9, c'était au verset 23, « Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Je fais tout, tout ce que je fais, c'est en fonction de cet évangile que je porte en moi. » C'est une grande déclaration, n'est-ce pas, hein? « Je fais tout à cause de l'évangile. » Alors, dans notre monde chrétien, on aime se donner des titres. Moi, je suis prophète, moi. J'ai rencontré plusieurs prophètes ces derniers temps. Bon, c'est eux qui le disent. Et qui le mettent sur Internet aussi, tu vois. Ben, je suis prophète. Ah bon? Ben, moi, je m'appelle Vincent. Avant d'être enseignant, avant d'être apôtre, avant d'être docteur, avant d'être évangéliste, on est tous des ministres de l'Évangile. On est tous à la même enseigne. Et si ça ne t'intéresse pas, eh bien, tu ne peux pas aller plus loin. Parce que tout dépend de cette base-là. Nous sommes tous porteurs du message qui nous a été confié. Et si on refuse ça, eh bien, va pas plus loin dans le ministère parce que tu n'es plus crédible. Le problème du pasteur principal, c'est qu'il vit dans un monde de chrétiens. Vous imaginez pas à quel point, quand on est pasteur à plein temps, on ne vit qu'entouré de chrétiens. Les gens qu'on reçoit sont des chrétiens. Les gens avec qui on se réunit sont des chrétiens. En soirée, on fait des réunions avec des chrétiens. Les pastorales, dans l'ensemble, c'est avec des chrétiens. Il n'y a que des chrétiens. Tu vois. Et alors, il se retrouve dans ce vivier de chrétiens. Tu vois. Et le seul contact vrai qu'ils ont avec des non-chrétiens, eh bien, c'est le plombier qui vient pour réparer des toilettes. Tu vois. Alors, comme il n'a pas une facilité de parler avec des non-chrétiens, parce qu'il ne croit pas comme moi, il ne pense pas comme moi, il ne vit pas comme moi, je suis mal à l'aise avec des gens qui ne sont pas comme moi. Bon, dans ce cas-là, on va parler toilettes. Non, avec un plombier, on va parler toilettes. Voilà. Ouais, ben, ça marche pas très bien, mon truc. Il fuit en bas, et puis je sais pas pourquoi. Et puis, ben, je vous trouverai une solution, et puis je vous remplacerai. Ben, merci beaucoup, je vous dois combien? Ben, à la prochaine. C'est à peu près son seul contact qu'il a avec des inconvertis. C'est autour des problèmes de la vie professionnelle. Mais le problème, c'est que le pasteur est souvent la victime de sa propre réussite. Au début, il commence comme l'homme du terrain, l'homme qui a vraiment à cœur des gens nouveaux. Il va à Espace Café, il parle avec les gens. Et après, il commence à être béni, et puis les gens viennent, et puis il y a une église qui grandit. Et puis en peu de temps, eh bien maintenant, il devient le gestionnaire de la bénédiction d'hier. Il n'est plus capable de pousser l'assemblée vers une nouvelle bénédiction. Maintenant, il gère simplement la réussite d'hier. Et c'est pour ça que, pour moi, je suis content, à 60 ans, de devoir commencer à zéro. Je ne pensais pas qu'à 60 ans, j'allais devoir commencer à zéro. Prospectus dans les boîtes à lettres, sortir une guitare que je n'avais pas jouée pendant 5 ans pour apprendre les accords de nouveau, pour passer la cire-pierre avant le culte, parce que les derniers qui l'ont utilisé, ils l'ont laissé dans un état. On fait tout ça à 60 ans. Tu vois. Mais moi, j'ai toujours dit au pasteur, à 60 ans, vous avez besoin de vous mettre dans une situation qui montre que vous êtes toujours l'homme de foi à 60 ans que vous l'étiez à 30 ans. Ben, Dieu m'a entendu. Il a dit chiche, tu recommences. Bon, ben d'accord. Mais ça nous garde jeunes, je peux vous dire. Hein. Parce que c'est le risque qui produit la foi. Et la foi, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Voyez, on n'est pas appelé à être des gestionnaires de l'œuvre de Dieu. On est appelé à être des créateurs avec Dieu de son œuvre. Vous avez tous entendu parler de Hillsong. Qui n'a pas entendu parler d'Hillsong? Vous aimerez tous son succès, n'est-ce pas, hein? Chaque année, au mois de juillet, Hillsong fait sa grande convention à Sydney. Ils ont, alors je crois pas que je me trompe, hein, mais ils ont 26 000 personnes qui viennent à leur convention. 26 000 personnes, c'est énorme, c'est énorme. Alors je crois que je me trompe pas, hein, en disant ça. Et alors pourquoi est-ce que les gens viennent? Ah ben parce qu'ils voudraient recevoir la réussite de Hillsong quelque part. Ah, ils vont pas le dire comme ça aussi, hein, mais ils aimeraient tous repartir avec le secret. Et alors, si tu demandes à quelqu'un qui suit tout ça de près et tu dis quel est le secret de Hillsong, eh bien, vous savez ce qu'ils vont dire? Ils vont dire la louange. Ils vont dire la louange. Et ils vont rentrer chez eux. Et la première chose qu'ils vont faire, ils vont trouver une meneuse de louange blonde. Parce que Darlene est blonde. Et puis, elle a besoin d'un manteau noir. Et ils vont repeindre l'estrade noire, parce que c'est comme ça qu'ils sont faits. Et ils vont s'acheter des lumières pour faire ça, comme boîte de nuit. Et un appareil fumé, pour la gloire de Dieu. Tu vois, donc, tout y est. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la réussite d'Hillsong. Il y a le mur noir, il y a la blonde, il y a la fumée, mais il n'y a pas la réussite. Et le problème, il est où? Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris le secret de Hillsong. Et le secret de Hillsong, ce n'est pas la louange. La louange, c'était simplement ce que Dieu a utilisé. Mais le vrai secret de Hillsong, c'est l'engagement sans faille de Brian Houston, le pasteur principal, un homme entièrement donné au salut des âmes. Et je connais Brian Houston, il me connaît. Je l'ai connu avant sa réussite, quand il était avec son père. On est des contemporains. Je connais son beau-frère qui avait la responsabilité de faire le travail de suite de tous ceux qui donnent leur vie à Christ dans toutes les églises, ils sont dans toutes les réunions, ils sont à Sydney. Et lui, sa responsabilité, c'était le travail de suite. Et Brian Houston demandait que les lundis, les mardis matin, sur son bureau, il y avait le nom et les adresses et les fiches de tous ceux qui avaient donné leur vie à Jésus dans toutes les réunions des églises dont il avait la charge. Ils avaient un tel désir, non seulement de toucher des gens inconvertis, mais de les suivre afin de pouvoir les aider par tous les moyens possibles d'intégrer la vie de l'Église. Et c'est cet engagement sans faille et avec une culture du salut des âmes qu'ils ont construit, ils sont. Et les gens, quand ils viennent, ils ne voient pas ça, ils voient les lumières, la fumée, là, les beaux gens sur l'estrade, le talent, et ils disent, ah, si j'avais tout ça, eh bien là, j'aurais la réussite. Et ils n'ont pas compris. Et à côté, les imitateurs sont parfois tout simplement ça, de l'imitation. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont porté l'évangile dans leur monde à eux, à travers leur vie d'église, à leur contact. Donc, la première chose, c'est dans le domaine de votre responsabilité, c'est votre cœur pour le salut des âmes qui sera un véritable pilier pour la culture que vous voulez créer dans votre église, dans votre domaine de service. Deuxième chose, c'est l'allumage de la vision. Vous savez que vous avez des papilles. Et vers midi, s'il y a des bonnes odeurs qui commencent à passer dans la salle, vos papilles vont être stimulées. Et ça va vous donner faim. Je ne vais pas trop en parler parce que sinon, vous n'allez plus écouter. Mais savez-vous que nous avons aussi des papilles spirituelles qui doivent être excitées pour l'œuvre de Dieu? C'est pour ça qu'il y a des menus devant les restaurants. C'est pas simplement pour informer les gens des prix. C'est pour leur donner envie d'entrer. C'est pour stimuler l'appétit, les papilles au moment du repas. Et la personne voit tous ces plats succulents. Eh bien, il dit, oh là là, je me vois bien en train de manger ça. Et il rentre. Et alors, ce qu'il y a pire, c'est quand c'est buffet à volonté. Parce que là, il vous met le plat devant le nez. Et là, oh là là, là là là, je sais plus quoi prendre. Il y a trop. J'ai envie de tout. Ça stimule l'envie de nourriture. Et nous, dans nos responsabilités dans l'Église, si on veut créer une culture, on a aussi besoin de stimuler les papilles spirituelles. Savez-vous que les papilles naturelles peuvent s'endormir? Vous savez ça. Et ça, c'est une des phases d'un long jeûne. Quand j'étais jeune dans le ministère, j'ai fait plusieurs longs jeûnes. Et j'ai découvert qu'il y avait trois phases dans les longs jeûnes. Il y avait la première phase, détox. Il faut arrêter de manger. Le corps proteste. Mais qu'est-ce que tu me fais? Tu me tues! Et là, tu te dis, tais-toi, ça te fera du bien. Ça dure à peu près 3 jours. T'as mal à la tête, t'as envie de manger, tout te semble bon. Dans ta tête, tu dis, qu'est-ce que je fais? C'est peut-être pas le moment. Bon, il faut tenir 3 jours. Après, les papilles s'endorment. Et là, c'est étonnant, pendant un certain temps, le temps que vous voulez, eh bien, vous pouvez être à table avec des gens qui mangent et sans avoir envie de manger. Pourquoi? Ben parce que les papilles se sont endormies. Et la notion de nourriture, ça ne vous donne plus envie. Mais, troisième étape, c'est quand tu as fixé la fin du jeûne et puis la fin du jeûne s'approche, à peu près 3 jours avant la fin, les papilles se réveillent. Et même des affiches de vitrine te donnent envie. C'est pas le moment de passer devant un Quick ou un McDo, hein, parce que là, t'as envie de... Et surtout ce qui est gras. Et moi, pour moi, c'était les saucisses de Toulouse. Oh. Et là, de nouveau, il faut tenir. Pourquoi? Parce que les papilles se réveillent. Et c'est pas physiquement le besoin de nourriture qui te pousse, mais c'est les papilles qui se réveillent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les papilles spirituelles aussi peuvent s'endormir. Ou finalement, on n'a plus envie de l'œuvre de Dieu. On s'est habitué d'être des chrétiens, on vient aux réunions, quand il faut louer, on loue, quand il faut écouter, on écoute, quand il faut prier, on prie. Eh bien, et si rien ne se passe, c'est pas grave, parce qu'on n'avait aucune attente que quelque chose se passerait. Nos papilles spirituelles de Dieu qui allait agir, de Dieu qui est à l'œuvre, que Dieu va nous surprendre, qui va nous étonner, qui fait l'imprévisible dans nos réunions, eh bien ces papilles se sont endormies. Et si elles se sont endormies, il faut les stimuler. Les stimuler de nouveau. Les stimuler avec quelque chose qui te donne envie de croire que les choses peuvent être différentes de ce qu'elles sont. Dans Luc 5, et on ne va pas lire le passage, mais vous le connaissez, c'est Pierre et ses amis qui avaient pêché toute la nuit, vous vous souvenez? Et ils n'avaient rien attrapé. Vous savez, quand on est pêcheur et on a pêché toute la nuit, on est expert, on a tout le matos. Si on est sorti, c'est parce qu'on y croit vraiment qu'il y a du poisson là. Et donc, ils se sont donnés à fond toute une nuit, 12 heures. 12 heures bredouille. Moi, je tiens à peu près 4 heures bredouille. Après, je dis, je crois que j'ai donné là. Eux, 12 heures bredouille. Ils vivent de ça. Ils n'ont rien à vendre le lendemain. Ils sont écœurés. Ils commencent déjà dans la tête à penser à un changement de carrière, reconversion milieu professionnel. Tu vois. Ils rentrent finalement. Et puis il y a Jésus qui est là et qui enseigne la foule. Et après, il leur dit, avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. C'est la dernière chose qu'ils voulaient entendre. Ils étaient fatigués, ils avaient faim, ils étaient sales, ils voulaient qu'une seule chose, c'est rentrer à la maison, dormir, manger un coup, dormir, oublier tout ça. Et Jésus les relance. Avancez-vous en pleine eau et lancez les filets. Il faisait quoi, Jésus? Il était en train de les restimuler avec une parole qui leur permettrait de croire de nouveau à quelque chose qui allait renverser l'échec. Ah. Ben, Jésus, si ce n'était pas toi qui l'avais dit, on a dit, mon ami, on reviendra demain, ce soir, maintenant on va aller dormir. Mais ce n'était pas le moment de dormir. Ce n'était pas le moment d'accepter l'échec. C'était le moment de se laisser interpeller, stimuler par une parole de Jésus, d'accrocher la foi à cette parole et de repartir au travail. Et bien sûr, le résultat, c'était la pêche miraculeuse. J'ai vu l'effet de stimuler une assemblée, un jour dans une réunion, où le pasteur qui voulait préparer une matinée visiteur, la veille, la semaine précédente, il a parlé à l'assemblée, et ensuite il a demandé à une femme de venir, et il lui a demandé de témoigner. Cette femme, 4 mois auparavant, était alcoolique, et était une femme complètement paumée, une voisine d'une des chrétiennes de l'église. Et la voisine, eh bien, elle est allée la voir, elle a parlé avec elle, elle a prié avec elle, l'a amenée à l'église, la femme a donné sa vie à Jésus. Transformation de vie, rayonnement, écoutez, comme on aime voir. Et le pasteur l'a fait monter devant tout le monde. Il a dit, maintenant, eh bien, raconte-nous ce qui s'est passé. Et avec les mots qui étaient les siens, eh bien, elle a raconté ce que Jésus a fait pour elle. Moi-même, et moi j'en ai entendu des témoignages, j'étais émerveillé. J'ai dit, Seigneur, c'est trop beau. Ça. J'en ai vu des belles choses, mais ça, il n'y a pas plus beau. Et j'en sentais que toute l'assemblée, eh bien, chavirait avec ce témoignage tout frais, exceptionnel. Et j'ai tout de suite compris qu'avec un simple témoignage de ce que Dieu avait fait, tout d'un coup, ça réveille ces papilles spirituelles du salut des âmes. On le fait aussi avec des petits chants. C'est le sauveur de mon âme, ô Jésus. Ô Jésus, c'est le sauveur de mon âme, et je veux toujours l'aimer. Vous connaissez celui-là? Jésus, c'est le sauveur de mon âme, c'est le sauveur de mon âme. Dans les années 80, on chantait des chants comme ça. On y croyait. C'était pas compliqué. On n'avait pas besoin de projeter les paroles, couplet après couplet après couplet après couplet après couplet. Avec le pont, le bridge, comme on dit. Et qu'il fallait passer de A, B, C, A, C, B, C, A, B, C. Ça, c'est un langage pour dire on commence avec cette partie-là, puis ensuite par. C'est le sauveur. On était amoureux de Jésus, amoureux de son salut. On y croyait. Et plus on chantait, plus Jésus sauvait. Il suffit de retrouver quelques petits chants comme ça et de dire on va retrouver le sauveur de notre âme. Et tout de suite, les papilles, quand est-ce qu'on mange? Dieu, on ne peut plus faire l'église comme avant. Là, il nous faut ça, il nous faut ça. Il nous faut du salut, il nous faut le salut des âmes, il nous faut le salut des âmes. Oui. Et enfin, le troisième pilier sur lequel une culture d'église se construit, c'est une mobilisation efficace. Une mobilisation efficace. Vous avez vu dans le passage que nous avons lu, 1 Corinthiens 9, 19, 24. Allez, si vous voulez que ça soit pour vous votre passage préféré, bien je vous le permets. Je vous l'autorise. Vous allez voir une mobilisation exceptionnelle de la part de l'apôtre Paul. Je me fais tout à tous. Il y a un juif et je me fais comme lui. Il y a quelqu'un que sans loi, je me fais comme lui. Il y a quelqu'un qui avec la loi, je me fais comme lui. Il y a des faibles, je fais comme lui. Alors quand j'ai lu ça, j'ai dit, Pierre, Paul, oh là 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 là. Parce que s'il y avait une chose que Paul n'était pas, c'était un faible. Et il dit, je suis prêt à devenir un faible si ça me donne l'occasion de gagner un faible. Il s'est mobilisé. Je me suis fait tout à tous. Pourquoi? Enfin, d'en gagner quelques-uns. C'est pas lui qui doit s'adapter à moi, c'est moi qui dois s'adapter à lui. C'est pas l'Ancien Testament, c'est nous qui devons nous rapprocher et nous adapter à Dieu. 10 commandements. Nouveau Testament, laisse tomber, ça n'a pas marché. C'est Dieu qui s'est adapté à nous. Il est devenu fils de l'homme afin que nous devenions fils de Dieu. Il s'est fait tout à tous afin de nous gagner. Et Paul faisait simplement la même chose dans sa mobilisation. Et une église peut se faire aussi tout à tous en repérant les différentes catégories de personnes dans votre ville, dans votre secteur. Et de décider, avec les moyens que vous avez, de vous mobiliser pour toucher les différentes catégories de personnes à toucher. Une église peut faire ça. Et alors chaque département de l'église devient une nouvelle occasion pour que Jésus soit le sauveur de nos âmes. L'école du dimanche, les jeunes, tout ça. Moi, j'ai grandi dans la ville de Sydney, ville portuaire, magnifique port de Sydney. Et donc, on n'est jamais très loin de la mer. Et je voyais souvent sur les pontons qui donnaient sur le port de Sydney, eh bien, les pêcheurs du week-end. Vous savez, les pêcheurs du week-end, ils ont une autre carrière. Ils font ça pour s'amuser. Et mais ils faisaient ça très sérieusement. Et les pêcheurs du week-end sur les pontons, ils arrivaient avec leur ligne, leur canne, mais ils lançaient pas une ligne. Il prenait possession du poton. Il mettait une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là, une ligne là. Et ils attendaient. Oh, toutes les lignes ne prenaient pas du poisson. On ne savait jamais laquelle qui allait prendre le poisson. Un coup, c'était celle-là. Une autre ligne, pas d'action du tout toute la journée. Une autre ligne, très calme pendant quelques heures, tout d'un coup, tac. Un coup c'est à droite, un coup c'est à gauche. Imprévisible, on ne sait pas comment que ça se passe. Mais à la fin de la journée, parce qu'on n'a pas eu une vision d'une ligne, mais on a eu la vision d'un ponton. Est-ce que vous m'entendez? Parce que la vision, c'était la vision du ponton, pas de la ligne. Eh bien, à la fin de la journée, on a une bourriche avec des poissons. Et aujourd'hui, en tant que pasteur d'église, eh bien, moi, je veux être sûr que mon église est un ponton et que chaque possibilité dans tous les départements de l'église, c'est une possibilité de lancer une ligne pour attraper un poisson. Les enfants, c'est pas juste pour que les parents soient libres pour entendre le message, c'est à la fois pour leur éducation chrétienne, mais c'est aussi à la fois pour inviter un petit camarade. Pour les jeunes, c'est pas simplement pour dire de se retrouver, puis boire le café, puis s'amuser ensemble, et puis louer le Seigneur ensemble, et écouter de la musique ensemble. Mais c'est afin que la force de frappe que nous avons au niveau de la jeunesse puisse profiter à quelqu'un de l'extérieur de venir et découvrir Jésus. Les femmes, le groupe de femmes qui se réunissaient, c'est pas seulement pour que les femmes puissent partager sur comment élever les enfants et puis les problèmes qu'ils peuvent connaître. Non, c'est afin que ensemble ils peuvent accueillir quelqu'un au milieu d'elles. Et comme ça, la vie de l'église, c'est un ponton. Et chaque département de la vie de l'église, la louange, c'est là aussi, c'est la musique, c'est le talent, c'est la technique. Pourquoi? Pour que la louange soit belle, oui, mais aussi pour qu'on puisse faire venir des jeunes qui aiment la musique, la bonne musique. Ponton, le ponton, vision de le ponton, et que chaque département, et moi en tant que pasteur, eh bien moi j'ai ma ligne aussi à moi qui m'appartient là, et je l'utilise, c'est un tableau, et puis je vais dans la rue avec mon tableau, et puis je lance ma ligne, quoi. Et moi, mon rôle en tant que pasteur, moi, je suis le pêcheur d'hommes. Et je fais le tour de toutes les lignes pour m'assurer que l'hameçon reste très pointe, qu'il y a une bonne pointe et qu'il y a de l'appât qui donne
envie aux poissons qui passent. Et comme ça, eh bien, une fois qu'on a fait ce qu'on a fait, eh bien, la culture de ce que nous vivons en tant que chrétiens, la culture du salut des âmes, c'est la culture aussi du ciel qui n'arrête pas de louer Jésus comme l'agneau immolé. Jamais il sera oublié, l'agneau immolé qui a sauvé les hommes par son sacrifice. Et aujourd'hui, eh bien, les paroles de Jésus qui ont été prononcées à l'apôtre Paul, non, à l'apôtre Pierre, après la pêche miraculeuse, maintenant que Pierre était à ses pieds, maintenant qu'il avait toute son attention, maintenant que la fatigue de la nuit était sortie de son corps, maintenant qu'il était émerveillé de voir le miracle que Jésus a produit contre toute attente, eh bien, Jésus a dit, maintenant, est-ce que tu as aimé ce que je t'ai fait? Il a dit, bah oui, c'était bien. Je m'y attendais pas. Hein. Il dit, est-ce que tu veux vivre là-dedans? Bah, Seigneur, bah oui. Tu me donnes envie avec ce que tu as fait aujourd'hui, Jésus. Hein. Il dit, je t'ai donné envie? Oui. Eh ben, écoute, maintenant, désormais, tu attraperas des hommes. Désormais, tu attraperas des hommes. Hier soir, on a attrapé quelques hommes. Hein. Une fille, Marcel, mais on a attrapé un homme, un Renaud. Touché par la vie. Mehdi, jeune, avec un nom comme Mehdi. Ben, j'imagine ses parents n'étaient pas catholiques. Hein. Ramdan, pas très normand comme nous, hein. Ramdan. Ils étaient dans le filet. Après, bon, comme on a vu dans Matthieu 13, après il faut ramener le filet, après il faut faire le tri. Et les bons, on les garde. Désormais, vous attraperez des hommes. C'est une vie passionnante de vivre comme ça. Autour de nous, il y a des hommes à attraper, des hommes et des femmes à sauver. Et si vous voulez, eh bien Dieu se servira de vous pour en sauver quelques-uns. Alors on arrive à la fin de notre formation aujourd'hui. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît.